C'est un projet un peu fou que l'on doit à l'Institut français du Maroc. Offrir à des artistes la possibilité de créer en dehors des murs une résidence sur la durée et en mouvement. Ici, on ne parle pas d'une jolie maison propice à la création, mise à la disposition des artistes invités, mais d'une caravane. On parle de l'immensité des paysages, les grandes étendues de sable du sud du Maroc, les palmeraies, la vallée du Drac, les sommets de l'Atlas et puis les plaines autour de Marrakech, la route sinueuse des marabouts au pied des montagnes et au loin, l'océan Atlantique, Sidi Kaouki et les remparts des Saouira. L'aventure va durer 3 mois jusqu'à début juin. Elle va être ponctuée de rencontres avec les habitants, des moments de partage. Le grand départ, c'était tôt, mardi matin. Bain de culture était présent, basket au pied et casquette vissée sur la tête. Il faisait très chaud. On a suivi la caravane jusqu'au premier campement, au premier bivouac, échangé avec les artistes. Dans cette première partie, vous allez faire connaissance avec Céline, Giuliano, Elodie et Gaston. Les débuts de Kafila, de Foum's Guide jusqu'à Sidi Nagy, c'est ce dimanche dans Bain de culture. Soyez les bienvenus. Bonjour à tous. Paysage rocailleux, l'immensité des contrées désertiques, des montagnes au loin, à l'horizon, aux formes curieuses, mélange de courbes et de falaises abruptes, une caravane de dromadaires à côté de nous, les tout débuts, la caravane Kafila, une petite dizaine de personnes qui cheminent ensemble sous un soleil bien présent. Il faisait 35 degrés dans ce coin du Maroc en début de semaine. Et parmi elles, parmi notre petit groupe, Martin Chesneau, le directeur de l'Institut français de Casablanca. Il fait partie de ceux qui ont lancé le projet et il a mouillé la chemise jusqu'au bout en suivant la première étape de la caravane. Martin Chesneau.
L'idée, c'était de réactiver en fait ce qu'étaient les caravanes autrefois, c'est-à-dire pas simplement des véhicules qui circulaient au travers du continent pour les marchandises, mais aussi des lieux par lesquels passaient les informations, la culture, la science, et qui ont construit au travers des siècles les différentes cultures africaines, dont évidemment celle du Maroc. Et on retrouve d'ailleurs dans les vallées du sud du Maroc beaucoup d'influences qui viennent d'ailleurs, qui viennent du sud de l'Afrique, qui viennent des zones tropicales, qui viennent de Tombouctou. Et donc de se dire que bon, maintenant que les modes de transport ont évolué, finalement peut-être que de reprendre le rythme de la marche pour à la fois se laisser le temps de comprendre comment toutes ces cultures se sont construites, comment ces territoires-là du sud Maroc ont gardé des traces de ces richesses qui sont passées par là. Voilà, c'était une occasion de mettre en valeur l'importance de l'échange au rythme de la marche, se dire qu'on peut porter aujourd'hui, au travers de regards d'artistes qui viennent en résidence dans la caravane, porter un regard contemporain sur ces patrimoines et sur comment ils peuvent être réactivés aujourd'hui.
La caravane vraiment débute aujourd'hui. C'est la première étape. Hier, il y avait déjà, pour lancer la caravane, un spectacle, un concert.
Oui, nous avions à la fois Afoum's Guide, donc, qui est une des portes du désert. Il y avait un concert d'un groupe d'Agadir qui s'appelle Valawind, qui était ouvert aux habitants de Afoum's Guide. On a eu pas loin de 1000 personnes qui sont venues hier assister au concert. Un groupe traditionnel local s'est joint à la soirée. Et puis nous avions aussi deux présentations, une sur les météorites au Maroc par la chercheur et la grande spécialiste des météorites qui s'appelle Asna Chnaoui, qui a fait une présentation en plein air devant 300 personnes avec des petits gamins, des adultes. Enfin, c'était assez passionnant. Assez tard le soir, assez étonnant de voir que les gens restaient. Et puis Younes Jamjari qui a fait une présentation des étoiles et de ce que les étoiles peuvent apporter, notamment aux marcheurs, comment on s'oriente, etc. Et avait son télescope et a permis à un nombre considérable de jeunes de regarder la Lune hier soir, qui était très belle d'ailleurs.
Et vous l'avez vécu comment ces premiers moments de l'aventure, en fait, le fait de voir que ça fonctionne, en fait, on installe une scène, les gens voient que quelque chose se prépare, et de voir qu'en fait les gens sont au rendez-vous, qu'ils viennent assister.
Hier, pour nous, c'était une découverte, c'est-à-dire qu'on a installé la scène, on avait lancé l'information, contacté les autorités, rencontré le centre culturel, travaillé un peu avec le collège en amont, mais il y a la petite angoisse. À la tombée du soleil, on avait prévu que les choses commencent assez tôt. Et puis, les chaises étaient installées, comme ça, en plein air, superbe, avec le soleil qui se couche, mais personne. Personne. Alors là, bon, forcément, pour un organisateur, c'est un petit peu le trac. Et puis, le colonel de la base militaire, qui était gentiment venu nous rendre visite et assister à la soirée, on a pris le thé. Et puis, pendant qu'on prenait le thé, il nous disait, vous savez, il faut attendre le coucher du soleil, la fin de la prière. Les gens sont rentrés, ils ont leurs enfants, ils sont rentrés de l'école, ils les font dîner. Après, vous verrez, les gens viennent. Et effectivement, le beau miracle s'est passé. C'est-à-dire que tranquillement, dès que le soleil a été couché, les gens sont venus et on s'est retrouvés avec une foule inattendue. Ce qui était important pour nous, c'est que toutes les générations soient présentes. Et il y avait vraiment des petits gamins jusqu'à 11h du soir, les petits gamins qui ont école le lendemain, ils étaient quand même là parce que il y avait une conférence sur les météorites, quoi. Et puis, ils avaient la possibilité de mettre l'œil dans le télescope et de regarder la Lune comme ils ne l'ont jamais vue. Bon, bref, il y avait toutes ces petites choses-là qui ont fait que les gens sont restés et que c'était un beau moment de partage.
Photographe, documentariste sonore, scénariste, plasticien, danseuse, 21 artistes vont se relayer ces 3 prochains mois dans la caravane. Lors des premières étapes, ils sont 4 actuellement, et parmi eux, Juliano.
Je m'appelle Juliano, je suis franco-brésilien. Je vais rester dans la caravane pendant les 4 premières étapes, donc presque 2 mois. Je vais faire toute la partie dans le désert, puis dans la vallée du Drap. Pour Kafila, je vais faire une bande originale, comme on l'entend dans les films. Voilà, il y a une histoire qui se raconte et il y a de la musique et du son. Et du coup, finalement, ça augmente aussi les images, ça joue avec. Le point de départ, c'est le réel, donc cette caravane, cette marche dans le paysage, et où je vais venir enregistrer des sons de la nature, les gens qui parlent, de la musique aussi. J'ai une guitare, vu que je suis... c'est mon outil, je suis guitariste. Donc ça sera aussi une source de son que je vais venir mettre en relation avec tout ce qui va sortir du paysage et des gens qui l'habitent. En plus de la guitare, j'ai pris cette radio qui me permet de me balader un peu. Par rapport à cette idée de paysage, je m'imaginais avant de partir dans le désert, un peu loin de tout. Et imaginez scruter la bande FM.
20h12, minutes, très bonne soirée.
Donc un autre paysage qui peut raconter aussi plein de choses et qui est chargé de plein d'imaginaire et de poésie aussi. Et du coup, bah, je m'imaginais balayer sur les différentes fréquences et peut-être entendre des choses, des bribes de radio un peu lointaines, juste de la friture, du bruit ou des choses un peu mystérieuses. La radio, elle apporte une part d'imaginaire assez forte et de fantasme presque, d'exploration.
Midi, un bain de culture avec David Labo.
La musique, la création sonore, la danse également parmi les tout premiers résidents, une résidente, Céline Delhomme.
Moi, je suis danseuse classique et contemporaine. J'ai commencé la danse très jeune, à l'âge de 7-8 ans. Et j'ai été formée principalement à l'Académie internationale de la danse à Paris. J'ai fait de la danse classique depuis petite. J'ai passé tous mes examens en danse classique. Et après, justement, à l'Académie internationale, j'ai eu la chance d'avoir un enseignement très complet en danse contemporaine et moderne. Donc, je me suis tournée aussi vers ces disciplines.
Et donc, le présent, ta présence ici, dans cette caravane, Kafila, quel est ton projet ?
Alors, mon objectif sur la caravane, c'est de me nourrir de l'expérience de la traversée du désert, donc nomade, pour faire une recherche chorégraphique, en fait. Et j'aimerais retranscrire mon expérience au sein de la caravane par le mouvement, par la danse, et figer ça, entre guillemets, par une vidéo. Voilà, habiter ces lieux déserts et en faire une création dansée. Ouais.
Tu te laisses porter par les sensations, par les paysages, pour imaginer une chorégraphie, des mouvements.
Ouais, c'est ça, complètement. Par l'expérience de la marche, comme ça, plusieurs heures par jour, qui a quand même un impact sur le corps très, très fort. Par les paysages, effectivement, qui sont très spécifiques. Et puis aussi par toutes les interventions là, qu'on a la chance d'avoir depuis quelques jours. On entend parler des étoiles, des météorites, de la mythologie, et c'est fantastique comme source d'inspiration.
Comment tu travailles ? Tu prends des notes ?
Oui, exactement, j'écris beaucoup. Après, c'est aussi savoir prendre du temps, se mettre dans un endroit et se laisser bercer par ce qu'il y a autour et créer, improviser. En fait, la création, ça passe beaucoup par l'improvisation, par la recherche. Et voilà, ça va être de faire ça un petit peu tous les jours et de prendre des images à différents endroits pour ensuite en faire un montage un peu global, ouais.
Standing on your two knees, baby, tell me what do you need, oh. Stand up on your two feet, baby, that's how it's got to be. You want me to be your mother, but you know I'm too young, too young. You want me to be your sister, but you know I'm too old, too old. You think I'm gonna raise you like a kid, but don't matter the love I feel. It's time to show and prove, man, go move, do what you gotta do, do what you gotta do, so. Standing on your two knees, baby, tell me what do you need, oh, oh. Stand up on your two feet, baby, that's how it's got to be, no, 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 no. Standing on your two knees, baby, tell me what do you need, You want me to be your mother, but you know I'm too young, too young.
Céline, Giuliano, Elodie, que l'on va retrouver dans quelques instants, ont entre 22 et 28 ans. Le quatrième artiste, lui, a dépassé le cap de la cinquantaine. C'est un petit peu leur grand-oncle dans cette aventure. Il a de la gouaille. Il ne reste jamais sérieux, plus de 30 secondes. Il s'appelle Gaston. Et Gaston, il a un lien particulier avec le Maroc.
Je suis né au Maroc, il y a un paquet d'années déjà, en 65. Et je suis né à Al-Hoceima, dans le nord, donc je suis riffin. Et j'ai passé 7 ans à Al-Hoceima et j'ai passé ensuite 7 ans à Tanger. Donc j'ai passé 14 ans de ma vie au Maroc. Je suis devenu dessinateur de BD. Donc souvent je viens avec mon boulot. Je m'installe dans un petit hôtel, le même, devant le grand Soko de Tanger, là où, quand on était petit avec ma mère, on circulait. Et puis je travaille en ressassant un peu, en me mettant dans cette ambiance enfantine, on va dire, et en dessinant. Voilà. Et ça a donné le bouquin La vie de ma mère, qui raconte un petit peu toute cette période-là. Donc oui, je suis très attaché au Maroc, particulièrement à Tanger.
Donc vous, votre projet sur Kafila, c'est forcément lié au dessin, à la bande dessinée. Quelle est votre idée ?
L'idée, c'est de faire un espèce de journal de bord, de raconter comment c'est la caravane, les sensations, les impressions que j'ai, les observations. Et puis c'est passionnant le début, parce que c'est le début. Et là, on est sur les premiers jours de la première caravane. Donc on essuie les plâtres. Et moi, je veux raconter ça à travers mes dessins.
Comment vous allez procéder ? Comment vous travaillez durant cette caravane pour dessiner ?
Je travaille à flux tendu. J'ai un cahier, un vrai cahier avec du papier et des crayons. Là, vous voyez, là. Donc, ce sont je dessine des croquis, je prends mes notes, je note mes idées. Vous voyez, je fais des dessins qui sont à des degrés d'achèvement inégaux.
Alors, il y a des idées. Je vois, par exemple, là, on a l'impression qu'il y a un bonhomme, un lit, une petite table de chevet, et vous avez fléché la table de chevet avec marqué « beau ».
D'accord, alors ça c'est quand on est arrivé au premier, comme moi je viens aussi parce que j'ai envie de vivre une aventure, quand on a été accueillis dans un riad, donc j'ai marqué on serait presque trop bien reçu, avec le mec qui est de dos, qui voit la chambre toute belle, donc où c'est beau, où c'est confort, où c'est propre, et le gars qui dit mais moi je suis venu pour le désert et les scorpions. Voilà, donc ça c'est l'idée, et puis après ça je vais prendre en photo la chambre de façon à vraiment être très documentée, et puis je vais faire le dessin, je vais photographier cette partie-là sur mon iPad, donc vous voyez, ça c'est l'iPad, vous voyez, les dessins. Je prends la photo de la chambre en vrai et je me sers de la photo pour décalquer et pour avoir une vraie documentation. Et puis après, je rajoute le bonhomme en dessinant qui raconte son texte. Donc vous voyez, là, il y a des dessins de ville. Donc là, c'est pareil, comme je vais dessiner Ouarzazate, par exemple, j'ai besoin d'avoir des vraies images de Ouarzazate. Comme je suis pas un vrai dessinateur qui est avec son aquarelle et qui reste une heure devant le décor, je prends la photo puis je travaille sur la photo, d'après la photo, après.
Le bonhomme qui découvre sa chambre et qui trouve que c'est très confortable, c'est vous. En fait, vous vous mettez en scène, vous allez raconter à travers vous, on va suivre votre aventure personnelle au sein de ce collectif.
Voilà, moi je suis le narrateur, le héros, et je suis le lecteur aussi. C'est-à-dire que je me dis que le lecteur qui va lire ça, il va se mettre à ma place et il va découvrir les choses en même temps que moi. Au sein de la caravane, j'ai pas plus de légitimité que n'importe qui viendrait et qui le découvrirait. Donc le but, c'est vraiment que le lecteur, en se lisant, il se sente immergé et que moi, je sois en gros le guide qui va le prendre par la main et même qui va être critique des fois, qui va dire « Oh là là, la preuve », qui dit « Oh là là, c'est trop beau » ou plus tard qui va dire « Oh mon Dieu, mais il fait trop chaud » ou « J'en sais rien, quoi ». Mais comme on n'est que le début, tout est à venir. Mais j'essaie de me servir de la tablette le minimum parce qu'il y a un problème d'électricité. Il n'y a pas beaucoup de prise de courant dans le désert. Ça n'a pas été prévu. Donc du coup, il faut que je m'alimente avec des panneaux solaires. Il faut que je fasse gaffe avec la poussière parce que la poussière se faufile partout et que voilà, les circuits électriques, ils aiment pas. Donc normalement, je devrais faire des dessins traditionnels avec de l'aquarelle et tout, mais j'ai pris un parti pris différent qui permettra, j'espère, aux organisateurs de la caravane d'utiliser mes dessins, de les transmettre sur sur des réseaux sociaux et de les imprimer plus facilement. Quand j'étais petit, je dessinais dans mes cahiers, donc je fais le même travail que quand j'étais petit. Je trouve que c'est un rapport avec l'enfance. Et puis la bande dessinée, c'est marrant, c'est des dessins, puis c'est raconter des histoires, c'est passer des émotions, c'est faire rire quand ça marche bien. Mais je me prends pas trop la tête avec ça. Je crois que les dessinateurs de BD se prennent peut-être moins pour des artistes que les peintres ou les écrivains. C'est des grands enfants. Puis maintenant que mes enfants sont partis, je peux redevenir un grand enfant.
Merci Monsieur Gaston.
Merci Monsieur David. وزماني كله انا عشت ليك زماني.
Enfin, quatrième et dernière résidente actuellement, Élodie Royer. Élodie est une femme de radio, elle est réalisatrice en France. C'est une passionnée du son, une passionnée des voix.
J'aime bien tout ce qui touche vraiment au son plutôt ancien. J'adore écouter pendant des heures les archives de l'INA, donc de l'Institut National Audiovisuel. Où il y a des pépites, vraiment. Les voix, les textures de voix, les grains de voix, ce qu'elles disent des époques où, parce qu'on ne s'exprime pas de la même manière aujourd'hui qu'il y a 50 ans, ce que ça dit d'une époque, de l'histoire, les traces que laissent en fait les gens par leur voix, ça me fascine.
Et le média radio, en tout cas l'audio, ça aussi peut-être un parfum de mystère, le pouvoir d'imaginer. On n'a pas forcément les images, mais c'est à nous de les fabriquer.
Ouais, c'est quelque chose qui résonne en fait. C'est quelque chose d'intime en fait, parce que on s'approprie la voix qu'on entend et on s'imagine donc par notre prisme, par là d'où on vient. La personne qui peut parler, en fait, enfin, c'est vraiment un pouvoir fort d'imagination, la voix, et qui n'est pas l'image, en fait. C'est-à-dire que c'est à nous de la produire, donc c'est fort aussi, je crois, dans ce que ça dit de nous-mêmes.
Pour vous, la voix, ça révèle une personnalité, ça révèle un individu.
Ouais, je crois. Et je pense aussi qu'en plus, on peut vraiment jouer avec, c'est-à-dire que, et surtout à la radio, en fait, c'est-à-dire qu'il y a une voix de radio, on parle d'une voix de radio, c'est-à-dire que c'est pas la même que celle qu'on a quand on peut discuter avec des gens en dehors du micro. Il y a un jeu qui s'installe, un rôle qu'on prend quand on est derrière le micro. C'est un média, je crois, qui est important parce que il rapproche les gens, en fait. Enfin, il y a quelque chose de... Avec la voix, en fait, on est dans l'intime des gens, je trouve. Enfin, parce qu'on peut être, on peut écouter la radio n'importe où, c'est-à-dire qu'on soit dans sa voiture, dans n'importe quelle circonstance, en fait, même dans le désert. Nous, avec Juliano, par exemple, qui est un autre résident, on a essayé de trouver les fréquences sur le poste de radio et on en a trouvé. Enfin, du coup, c'est incroyable de se dire que, bah, par exemple, les nomades qui sont dans le désert peuvent aussi écouter la radio. Voilà, il y a quelque chose qui se trimballe un peu partout, qu'on peut avoir à n'importe quel moment de sa vie. Voilà. Le projet que j'ai soumis à l'Institut français quand ils ont lancé l'appel à projet, c'était de restituer comme des cartes postales sonores, en fait, de la caravane. Mais en m'intéressant donc à chaque résident de cette caravane. Donc là, moi, pour le coup, je suis à la première étape. J'ai trois autres personnes avec moi. Donc je vais essayer de dresser des portraits sonores un peu réalisé en fait, enfin de manière artistique, pour donner un aperçu de chacun d'entre eux. Une bande sonore avec des différents bruits enregistrés dans le désert un peu tous les jours.
Par exemple,
le bruit du thé dans les verres quand les guides nous les versent, parce qu'ils ont une manière particulière de servir le thé, et ça donne un bruit assez incroyable. Le bruit du télescope de Younes, donc qui est un intervenant sur la caravane qui nous a montré les étoiles. Le bruit du sable, des mouches, parce qu'il y en a partout, on risque peut-être de les entendre aussi dans l'enregistrement. Un peu de tout ça, quoi, la matière sonore du désert. Et je comprends en fait l'idée qu'ils ont eue de cette caravane pour les artistes et pour justement des processus de création, parce qu'il y a vraiment quelque chose d'introspectif qui fait qu'on peut facilement créer dans l'espace du désert, peut-être par le fait qu'il y ait rien. Donc on se focalise sur nous-mêmes et sur nos pensées, nos réflexions. On n'a pas grand-chose qui puisse nous distraire, en fait. Et je pense que c'est un bon moyen de créer, de création. Ouais.
Voilà, Elodie Royer, la caravane Kafila, aussi une dimension scientifique. Lors des rencontres organisées avec les habitants, des experts sont invités pour parler architecture traditionnelle, de la faune, de la flore, du ciel également. Dans la deuxième partie, vous allez faire connaissance avec Asna Chenaoui, professeure à l'université Hassan II de Casablanca. C'est une spécialiste des météorites. On en trouve beaucoup dans le désert. Et Asna était également présente dans la caravane cette semaine. À tout de suite.
Si seulement elle savait comment tu la regardais, elle serait effrayée. Si seulement elle savait comment tu l'imaginais, elle pourrait t'abîmer. Mais laisse le temps, elle pourrait vous donner une chance de vous retrouver. Il lui faudra du temps, c'est sûr, pour oublier tous ses préjugés. Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir. Si de run c'est pas trop accepté, mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir. Toi le roi tu t'en fous, c'est pas ce qui te plaît. Si seulement elle savait comment tu l'envisageais, même si t'es une fille. Si seulement elle savait comment tu pourrais l'aimer tellement. Et tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir. Même si de reine c'est pas trop accepté. Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir. Toi les rois tu t'en fous, c'est pas ce qui te plaît. Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir. Même si de reine c'est pas trop accepté. Mais tu voudrais.
Avec David Labo.
En France, c'est une femme politique pas comme les autres. Passionnée de culture, de littérature, elle n'a pas son pareil pour citer de mémoire les grands écrivains. Des tirades enflammées lors de meetings, entre les murs de l'Assemblée nationale. Christiane Taubira, il s'agit d'elle. Elle écrit elle aussi dans son dernier roman, Nuit d'épines. Elle raconte son amour de la nuit et revient sur ses nuits d'enfance en Cayenne. Parmi ses nombreux admirateurs, le comédien et écrivain français Charles Berling. Il a fait une lecture musicale de passage de ce roman il y a quelques jours à Tanger et il a répondu aux questions de Camille Marigot. Et puis dans cette deuxième partie, retour aussi sur Kafila, la caravane de l'Institut français dans le sud du Maroc. Caravane patrimoine culturel et scientifique. Des experts font également partie de l'aventure. Au fil des étapes, lors des rencontres avec les habitants, on va parler de l'histoire du Maroc, de la flore, de la faune, du ciel également. Asna Chenaoui est une spécialiste des météorites. Elle a donné la toute première conférence de Kafila. On la retrouve dans 3 minutes.
Yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes.
À moins d'avoir un œil particulièrement aiguisé, on pourrait croire à un vulgaire caillou et l'enjamber. Ce n'est pas le cas de la personne que vous allez entendre maintenant. Asna a du flair, de l'expérience. Les météorites, elle n'a pas son pareil pour les reconnaître.
Asna Chenaoui Aoudjian, donc professeure à l'université Hassan II de Casablanca et géochimiste spécialiste des météorites.
Et sa passion, Asna la partage dès qu'elle le peut. Lundi soir, c'était avec les habitants de Foumsguid, dans le sud du Maroc. Une conférence improvisée à la nuit tombée, dans une région particulièrement riche en la matière.
Nous sommes dans un endroit qui est assez spécial, parce qu'il y a eu beaucoup de chutes de météorites dans cette zone pendant les 10 dernières années. Donc il y a eu Tisint, qui est une météorite exceptionnelle, qui est une météorite martienne, qui est tombée en juillet 2011, juste à côté. Tirertz, qui est tombée en juillet 2014, qui est une eucrite. Il y a Rengeljoued en 2017, etc. Et tout ça, c'est vraiment dans un petit mouchoir de poche, finalement. Alors, en plus de...
Quand on parle de météorites, on parle d'objets de quelle taille hein?
C'est très variable. Ça peut être un objet de quelques milligrammes même, parce qu'on a des objets cosmiques qui arrivent sur Terre en permanence, jusqu'à des choses qui peuvent être très grandes, plusieurs kilos, plusieurs tonnes. Donc,
et les météorites que vous venez de citer, qui sont tombées ces 10 dernières années dans ce mouchoir de poche?
Alors Tisint, ça faisait à peu près, on a estimé le poids total à 7 kg. En plusieurs morceaux. Les plus gros morceaux faisaient 1,2 kg. Tirertz, à peu près 12 kg. Tamdart, qui est tombé à côté d'Ait Ben Heddo, c'est plus de 300 kg. C'était en décembre 2008. En plusieurs morceaux. Donc c'est très variable en fait. Et bon, je vais citer Tinjdad par exemple, qui est tombé aussi en septembre 2014. C'était une seule météorite qui faisait à peu près 2 kg. Donc c'est vraiment très variable.
On a l'impression que le ciel peut nous tomber sur la tête. C'est dangereux, c'est ce qu'on se dit tout de suite. Mince, il ne faut pas que je sois à cet endroit-là quand elle tombe.
Non, alors bon, ça a été dangereux à un moment. En fait, statistiquement, les objets de grande taille, on les reçoit rarement sur Terre. C'est un objet catastrophique tous les 100 millions d'années. Donc, le dernier gros objet qu'on a reçu sur Terre, c'est il y a 65 millions d'années et qui a fait disparaître les dinosaures. Donc, on a encore quelques millions d'années devant nous. Et il y a toujours des objets qui arrivent sur Terre en permanence. On reçoit des tonnes de matière extraterrestre sur Terre en permanence, mais des objets de grande taille, bien heureusement, on en a peu. Voilà.
Ça veut dire qu'il y a des endroits sur Terre où l'arrivée de météorites est plus fréquente? Il y a des endroits où les météorites arrivent plus facilement sur la surface de la Terre que dans d'autres endroits?
Ah non, absolument pas. Alors les chutes de météorites sont absolument aléatoires, sauf que bon, si ça tombe dans l'océan, on ne va pas les retrouver. Si ça tombe dans des zones à végétation, on ne va pas les retrouver non plus. Et dans les zones humides, elles vont être altérées très rapidement. Par contre, quand elles tombent dans les déserts, eh bien, elles s'accumulent parce qu'elles ne sont pas altérées. Et donc on en a comme ça très grande quantité dans les déserts froids, en Antarctique notamment, Et puis dans les déserts chauds, dans le Sahara, dans la péninsule arabique et dernièrement dans le désert d'Atacama. Donc voilà, c'est une accumulation. Par contre, ça c'est une réalité, ce n'est pas un mythe, il y a effectivement plus de chutes de météorites au Maroc pendant ces dernières années qu'il n'y en a eu nulle part ailleurs dans le monde. Et même dans les pays avec des dispositifs de caméras de surveillance du ciel, etc. Et donc ça, c'est quelque chose de réel sur lequel nous sommes en train de travailler. Bon, maintenant, il y a aussi le fait qu'au Maroc, le gros avantage, ce qui est exceptionnel, unique, c'est que vous avez une très grande communauté de chasseurs de météorites et des gens qui s'y connaissent bien et que dès qu'il y a un météore qui est détecté, eh bien, vous avez toute une population de chasseurs qui vont à la recherche du météore. Et bien évidemment, ça augmente les chances de le découvrir.
Il y a un marché autour de ça, la vente de météorites.
Ah, bien évidemment, un marché qui existe depuis 1999, où ont commencé les premières météorites à être collectées, les premières météorites dans le sud du Maroc. Et le centre de ce commerce, c'est Erfoud, où il y a beaucoup de gens qui commercent, il y a beaucoup de chasseurs, il y a beaucoup de connaisseurs. Et voilà, oui, il y a un marché qui est, je dirais, relativement bien organisé, mais qui existe depuis longtemps.
Ça vaut combien, une météorite? Ça peut se monnayer à quelle hauteur?
Alors, en tant que scientifique, c'est pas mon rôle, c'est pas naturel de donner, mais bon, les prix sont extrêmement variables et tout ce que je peux vous dire, je vous donnerai pas de chiffres, je peux vous dire simplement que ce qui va faire la valeur marchande, c'est la rareté. Et plus elles sont rares, plus elles sont chères. Aussi, ce qui fait la valeur marchande, ce ne sont pas les scientifiques, ce sont les collectionneurs. Parce que les collectionneurs, comme tout objet, les gens qui collectionnent les timbres ou n'importe quoi d'autre, eh bien, ils sont à la recherche de ces objets-là et ils sont capables de mettre des sommes importantes si les objets sont rares. Les scientifiques n'ont pas les moyens d'acheter les météorites, donc c'est pas eux. On n'est pas du tout dans ce mood-là et voilà.
Question plus personnelle, vous, votre rapport à cela, qu'est-ce qui vous plaît tant que cela dans les météorites? Qu'est-ce qui vous fascine?
Ah, bon, alors, c'est toute une histoire, ça. Alors, d'abord, c'est mon sujet de recherche depuis 20 ans. Ensuite, il est impossible de toucher une météorite qui a 4,56 milliards d'années et d'y être insensible. Ce n'est pas possible, c'est tout simplement pas possible. Il y a tellement de messages dans ces roches-là, elles apportent tellement d'informations, elles sont tellement puissantes à plusieurs titres qu'on ne peut pas y être insensible. Ensuite, donc, toutes les recherches que j'ai faites sur ces objets-là, bon, il y a des choses qui ont fait de très belles publications. J'ai eu le privilège de publier dans Science autour de la météorite Ticine, donc ça c'est quelque chose de fabuleux. Et puis pour moi, c'est un grand privilège aussi de pouvoir travailler et enseigner quelque chose qui me passionne. Et de développer donc toutes ces recherches au Maroc, d'avoir de jeunes chercheurs. Maintenant, il y a 5 personnes qui ont soutenu leur thèse sur la thématique. Il y en a 7 qui sont en train de préparer leur thèse donc sous ma direction sur cette thématique-là. On a créé la fondation At-Tariq pour faire la diffusion, la vulgarisation des sciences. Et ces sciences-là, justement les météorites, c'est un excellent moyen de communiquer sur la science parce que ça fait rêver. Donc, obligatoirement, quand on parle de météorites, ben, les yeux s'ouvrent, s'écarquillent et les gens sont attentifs. Et donc, voilà, c'est tout ça. Ma passion à moi, c'est tout ça. Alors, bien évidemment, ben, ça fait 20 ans que j'essaye de transmettre un petit peu de mon savoir et puis cette passion à tous mes jeunes doctorants que j'adore et qui sont en plein dedans, à tous les gens que je rencontre, à tous les enfants que vous avez vus hier, à 11h30 du soir, il y avait je ne sais pas combien de personnes qui étaient encore là, à un jour de semaine, et qui étaient attentives et qui écoutaient toute cette histoire magique qu'on leur racontait autour des météorites. en arabe dialectal, sur une projection totalement improvisée, mais tout le monde est resté extrêmement attentif. C'était quelque chose d'absolument émouvant. Comment voulez-vous que je ne sois pas passionnée par tout ça? C'est dans l'ordre des choses, à moins d'être complètement insensible, mais voilà.
Et hier, c'était un public très divers. Enfin, ça allait vraiment...
Hier, c'était... je vis beaucoup d'expériences, hein, de par ma profession. Je vis beaucoup d'expériences et de par la vulgarisation. Hier, il y avait des femmes âgées, il y avait des femmes, il y avait des bébés, il y avait des enfants, il y avait des jeunes, il y avait des messieurs âgés, jeunes, et un public attentif du début à la fin. Et les gens, ils n'avaient pas envie de partir. Et après, quand tout le monde avait envie de toucher la météorite, les petits dépliants qu'on a ramenés, tout le monde voulait en avoir. Et c'est magique. C'est sûr que ces enfants-là, que les gens que nous avons eus dans le public hier, ne regarderont plus jamais un caillou de la même façon. Un caillou, c'est quelque chose d'important. Et un caillou, c'est quelque chose qui a une histoire. Et un caillou peut faire rêver et peut faire aussi de la science, etc. Donc tout ça, c'est différents aspects qui font cet intérêt, et surtout dans notre pays où on en a tant que ça, quoi. Le Maroc est un pays de météorites. Le Maroc est l'un des pays les plus riches au monde en termes de trouvailles de météorites. Plusieurs milliers de météorites sont collectées sur le sol marocain.
Voilà, Hasna Chenaoui. Dans un instant, quand un grand comédien français lit des textes d'une grande femme politique française, la rencontre entre Charles Berling et Christiane Taubira. Pour l'instant, voici Alain Bachung sur Média.
On m'a vu dans le Vercors sauter à l'élastique, voleur d'amphores au fond des criques. J'ai fait la cour à des murennes, j'ai fait l'amour, j'ai fait le mort. T'étais pas né. À la station balnéaire, tu t'es pas fait prier. J'étais gant de crin, je zère. Pour un peu, j'ai trempé. Histoire d'eau. La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je m'en lave les mains. J'ai dans les bottes des montagnes de questions où subsiste encore ton écho. Où subsiste encore ton écho. J'ai fait la saison dans cette boîte crânienne. Tes pensées, je les faisais miennes. T'accaparer seulement, t'accaparer. D'estrade en estrade, j'ai fait danser tant de malentendus. Des kilomètres de vie en rose. Un jour au cirque, un autre à chercher à te plaire. Dresseur de loulou, dynamiteur d'aqueduc. La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je mens, et effrontément. J'ai dans les bottes des montagnes de questions où subsiste encore ton écho. Où subsiste encore ton écho.
L'hommage à la nuit d'Alain Bachung. Il est acteur au cinéma, comédien en théâtre, metteur en scène, écrivain, mais aussi directeur d'un théâtre à Toulon, dans le sud de la France, le Théâtre Liberté. Charles Berling est cette fois sur scène pour lire en musique des extraits du dernier livre de Christiane Taubira. Ça s'appelle « Nuit d'épines », un ouvrage dans lequel l'ancienne ministre de la Justice dit son amour de la nuit, raconte son enfance à Cayenne et sur les bancs de l'hémicycle à Paris. Charles Berling au micro de Camille Marigot.
Charles Berling, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes donc acteur au cinéma, comédien au théâtre, vous êtes aussi metteur en scène et puis vous écrivez également, vous êtes donc de passage au Maroc pour lire des extraits de cet ouvrage de Christiane Taubira, l'ancienne ministre de la Justice, Nuit d'Épines. Tout d'abord, est-ce que c'est la première fois que vous faites ce type de lecture d'un ouvrage d'une autre femme, qui plus est une autre femme politique ?
Non, pas du tout. C'est-à-dire, dans mes activités d'acteur, j'aime beaucoup faire des lectures en public et j'en fais beaucoup, beaucoup. Je trouve que c'est un exercice qui fait appel à l'instinct, comme ça. Et souvent, c'est accompagné, comme là, je suis accompagné par un oudiste marocain. Là, quand je vais rentrer à Lyon, je vais faire une grande lecture avec Yannick Enel, qui, je sais, d'ailleurs, passer ici à Tanger. Comme je suis aussi directeur d'une scène nationale dans le sud de la France qui s'appelle Château-Vallon-Liberté, je profite de ce genre de voyage pour rencontrer des gens ici, des artistes. Et puis mon théâtre, par nature et aussi de par mes origines, il a vocation de travailler beaucoup avec la Méditerranée et tout ce qu'il y a autour. Donc ici, on est au bord de la Méditerranée, même si c'est aussi l'Atlantique, mais... Voilà, le Maroc est cher à mon cœur et donc je viens rencontrer aussi des artistes et puis des gens.
Oui, on peut rappeler que voilà, le Maroc fait partie intégrante de votre vie. Votre mère a grandi à Meknès.
Tout à fait, ma mère est née à Rabat, a grandi à Meknès dans le garage de ses parents, rue Ramzine. Et donc pour moi, le Maroc fait partie de mes origines.
Et alors, pourquoi est-ce que vous avez choisi cet ouvrage de Christiane Taubira ?
Très bonne question, parce que quand les instituts français m'ont proposé de venir faire quelque chose ici, j'ai tout de suite pensé à Nuit d'Épines de Christiane Taubira, parce que Christiane Taubira est guyanaise, elle est femme, elle est noire de peau, donc pour moi... elle aborde le féminisme, elle aborde la décolonisation, elle aborde le racisme de l'intérieur et sous un biais qui me plaît. Elle raconte dans ce livre sa mère, pauvre, qui va, par l'instruction, chercher à sortir ses enfants de la misère. Donc je trouve ça à la fois très touchant et je trouve que c'est l'illustration d'un combat utile dans un monde qui a tendance de plus en plus à faire fabriquer des gens trop riches et des gens trop pauvres et à faire de l'obscurantisme, à faire de l'ignorance une arme de destruction de l'humain, quoi. Donc pour moi, c'est un exemple magnifique d'une famille qui va chercher qui va se battre et s'en sortir par l'instruction, par la littérature, par l'art. Le fil conducteur, c'est une enfant qui essaye de lire dans la nuit, alors qu'elle n'a pas le droit d'allumer la lumière, donc qui profite des nuits. J'aime beaucoup la nuit, moi-même.
Qu'est-ce que ça vous inspire ? Ouais, je voulais vous demander.
Comme je fais du théâtre et tout, enfin, je ne sais pas comment dire. Pour moi, la nuit, c'est un endroit magique. C'est le moment où, pas à Tanger, mais enfin, il y a beaucoup de villes où ce n'est pas le cas. Mais quand même, c'est un moment particulier où l'activité humaine normale s'arrête un peu. L'activité, disons, basique. De l'activité humaine. Et moi, j'aime ce moment un peu de recul, un peu de... C'est cette marge-là. Et la nuit, c'est à la fois dangereux et en même temps magnifique. Donc, elle raconte ça. Elle raconte cette... vous voyez, là, aujourd'hui, c'est le matin, donc on entend les machines qui repartent pour fabriquer des jus de citron. Mais c'est ça que j'aime dans son livre aussi, c'est qu'elle raconte comment... même la nature autour de la ville se transforme. Et donc, il y a des ombres la nuit, il y a des formes qui se transforment. On n'a pas la même vision. Moi, j'aime beaucoup lire tard le soir. Quand j'écris mes bouquins, je les écris souvent la nuit. Bon, c'est comme ça.
C'est un espace de liberté.
Oui, parce qu'on a plus accès à sa propre solitude, je dirais. Et puis c'est aussi la nuit, pour moi, c'est aussi l'endroit de l'amour. Hein. La nuit, c'est beau. On fait l'amour la nuit. Enfin, on peut le faire le jour aussi, mais moi j'aime bien la nuit.
Voilà, Charles Berling qui avait entamé une tournée au Maroc, il est passé par Fès et par Tanger. Malheureusement, cette tournée n'ira pas plus loin. Elle est annulée dans le cadre des mesures préventives liées à l'épidémie du coronavirus. Avant de se quitter, un dernier mot pour saluer le succès de Mohamed Mouftakir. Son film « L'automne des pommiers » a remporté hier soir le Grand Prix au Festival national du film de Tanger. Prix du jury pour « The Punch » de Mohamed Amin Mouna, qui a également remporté les prix de la musique et du montage, et puis le prix de la première œuvre à Alaaddine Al-Jem pour Le Miracle du Saint Inconnu, film qui a également gagné les prix de la production et du son. Alaaddine était notre invité la semaine dernière. Voilà, c'est la fin de Bain de Culture. Excellente journée, on se retrouve la semaine prochaine.
Trying to walk, and I grow faint. Oh, I long to soar on the wings like an eagle. But I look down, and I'm afraid. I'm afraid. But you lift me high. Trying to find you, lost my way.